Nous allons donc poursuivre avec Julien Négro, administré MC Enercop, que nous avions donc reçu le 26 novembre 2019, le podcast 46 de Libre à vous. Donc Julien, tu es normand avec nous, comment vas-tu ?
Bonjour, tout va bien, merci.
Alors nous, bien sûr, nous invitons à les personnes qui suivent le podcast, qui nous écoutent, à aller écouter le podcast de novembre, hein, s'ils veulent creuser le sujet, mais sans rentrer d'un coup dans les détails, est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous présenter ce qu'est Enercop, s'il te plaît.
Alors je suis Julien Négros, je suis administrateur système donc Enercop. Je suis aussi membre de l'April, comme Enercop d'ailleurs. Du coup, on travaille au service informatique de la coopérative avec trois de mes collègues. Enercop, c'est une coopérative, c'est plusieurs coopératives de fournisseurs d'électricité d'origine uniquement renouvelable et en circuit court.
Super, très bien résumé. Et du coup, voilà, donc comme je disais, comme il y a eu un podcast, on a pu creuser le sujet. Si les personnes sont intéressées par ce modèle très spécifique qui est Enercop, et dans la distribution d'électricité non plus, vous êtes plutôt une exception. Donc c'est un sujet passionnant, voilà, que nous invitons les personnes à retrouver sur le podcast 46. Donc là, j'imagine que dans la situation actuelle de confinement, ça a dû avoir un impact sur la manière dont vous travaillez. J'imagine que tu es surtout en télétravail.
Ouais, tout à fait. On est tous en télétravail. Nous à l'admin 6, on va de temps. Enfin, mes collègues qui sont restés en région parisienne, moi j'ai un peu honte de le dire, mais je suis parti. ils retournent de temps en temps dans les bureaux quand c'est nécessaire pour envoyer du matériel, préparer du matériel, envoyer du matériel. Mais sinon, on est tous confinés chez nous. On travaille tous à distance avec les outils, pas mal d'outils numériques qu'on avait mis en place précédemment et d'autres qu'on a mis pendant le confinement.
D'accord. Alors, est-ce que le télétravail, c'était quelque chose que vous pratiquiez déjà ? Vous avez dû, justement, un peu, entre guillemets, découvrir ça dans cette situation ?
Alors non, on pratiquait déjà à plus ou moins d'importance en fonction des services, des pôles, comme on appelle ça. Par exemple, le pôle service client, pôle client en général, le pratiquait assez peu jusqu'à cette année, et c'est tout récent, donc c'est plutôt bien tombé. Enfin, je peux pas dire ça, mais on va dire que c'est bien tombé qu'il ait été décidé de faire du télétravail pour le service client cette année, parce que du coup ça a pu préparer un petit peu le terrain. Sinon ça aurait été un peu compliqué parce qu'ils ont beaucoup d'ordinateurs et c'est des ordinateurs normalement des ordinateurs fixes, et du coup on a dû trouver des portables pour toutes ces personnes à l'époque et juste avant le confinement compléter pour qu'elles puissent travailler à distance. Donc non, on travaillait déjà en télétravail pas mal, donc c'était déjà bien déchiffré, mais bon, défriché. Mais à cette échelle-là, c'est sûr que c'est une première, mais c'est une première pour tout le monde, je pense.
Oui, c'est sûr. Puis ces conditions, on l'a déjà évoqué, sont assez particulières de télétravail. C'est pas du télétravail, on va dire, entre guillemets, normal. Et toi, d'ailleurs, à titre personnel, t'as eu plutôt tendance à télétravailler avant, à bosser depuis vos locaux professionnels ?
Pas beaucoup, c'est à peu près deux fois par mois. C'est un peu informel aussi, c'est en fonction des besoins. C'est une pratique assez récente dans notre branche, dans notre service admin 6 là. Et je crois qu'il y a surtout moi qui en profite et mon responsable aussi. Oui, moi j'ai déjà un peu l'habitude. De le faire, c'est vrai que c'est quand même plus commode pour nous d'être proche du matériel mais finalement là depuis un mois et demi on arrive à travailler assez normalement au niveau de l'admin 6. Pour la gestion du matériel effectivement ça nécessite d'aller sur place pour mes deux camarades qui peuvent le faire, mais heureusement c'est pas hyper courant, et puis la plupart des choses on peut les gérer à distance, ouais.
D'accord. Et tu as reçu, là en plus il y a forcément le changement de temporalité où c'est tous les jours le télétravail. Dans ton approche du télétravail, tu as senti quand même des changements, ou finalement c'est juste tous les jours au lieu d'être deux fois par mois, mais comment tu le perçois de ce point de vue-là ? Comment tu le vis, on va dire, de manière générale ?
C'est pas évident. Au niveau personnel, je dirais que c'est plus. Enfin, j'ai toujours. toujours eu du mal à être vraiment très efficace en télétravail à mon goût. Et là, en plus, sur les semaines durant, ça devient de plus en plus marqué, je trouve. Mais ça dépend aussi des fois. Là, ces derniers temps, ça allait plutôt bien niveau motivation et compagnie. Mais c'est sûr que d'être isolé, enfin isolé entre guillemets, isolé physiquement, on va dire, je trouve que ça peut marquer un petit peu la motivation, en tout cas pour moi. Et heureusement, on a mis en place des réunions régulières qu'on faisait pas avant, déjà avec mes collègues directs et puis avec voilà, donc on peut quand même discuter et puis avoir du lien, quoi, ce qui est quand même important. Quand on travaille, c'est ensemble, donc quand on est isolé physiquement, c'est un petit peu spécial.
Oui, c'est juste, et on le ressent, je pense que c'est clair, comme tu le dis, hein, t'es clairement pas le seul dans cette situation, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à passer par nous, où ça nous fait beaucoup de bien au sein de l'April, avec, que ce soit au sein de l'équipe salariée, mais aussi avec des bénévoles, on essaie d'avoir un point hebdomadaire pour prendre des nouvelles, pour maintenir ce lien, d'avoir un échange. Nous, par exemple, on utilise, qui est le même logiciel là qu'on utilise pour l'émission, voilà, d'avoir ce point hebdomadaire d'un point de vue organisationnel. Donc, tu as commencé à nous en parler, mais alors, voilà, qu'est-ce que vous mettez en place, peut-être que ce soit un point de vue technique et point de vue organisationnel pour garder, on va dire, un fois le moral et le lien dans cette situation si particulière.
C'est du coup pas mal de réunions à distance, enfin de discussions, même ça peut être un peu informel. On a fait aussi des apéros, comme beaucoup de gens ont découvert avec le confinement, avec des outils de visio. Et comme je parlais de mise en place, justement, on était depuis le début de l'année, on a changé de solution de visio et on en avait prise une officiellement. Propriétaire que je nommerai pas, mais elle est très connue, elle est devenue très connue. et en parallèle, on voulait mettre en place une solution libre, mais on avait des problèmes techniques. Et finalement, ça a accéléré le besoin parce que en plus, on avait des interrogations légitimes de salariés et de sociétaires sur nos choix logiciels, et ça nous travaillait beaucoup, surtout nous à l'Admin6. Donc on a mis, je crois que c'était fin de semaine dernière. On a lancé un Jitsi pour pouvoir faire des réunions, pour pouvoir avoir une solution hébergée libre, auto-hébergée libre de visio et de visio, pas nécessairement d'ailleurs de réunions en général, parce que Mumble ça pourrait être une solution effectivement, mais c'est uniquement vocal et nous on peut avoir besoin, enfin les personnes réclament le besoin visuel et aussi le fait de pouvoir partager son écran qui peut être utile pour faire des présentations ou pour montrer des choses pour montrer des choses particulières. Donc on a mis ça en place tout récemment et c'est grâce au confinement quelque part, que ce soit allé plus vite que prévu.
Oui, mais en fait, il faut savoir aussi, c'est y trouver des opportunités. Moi, cette phrase, alors je sais plus où je l'ai entendue, mais que je trouve très juste, qu'il faut pas gâcher non plus cette crise, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir en trouver une ressource pour se changer, pour explorer, pour être créatif, pour se réinventer aussi. Et justement, c'était pas qu'une période morte, c'est aussi un moment où on peut en profiter pour mettre en place ce genre de système. Donc, tant mieux. Tant mieux si vous faites ce travail-là et cet effort-là. Christian nous demande sur via le chat libre à toi sur libreatoi.org à quand un compte officiel sur Mastodon, et il nous demande combien de personnes dans l'équipe IT et si vous avez d'autres outils libres que vous utilisez de manière générale d'ailleurs.
Alors,
beaucoup de questions Mastodon. Désolé.
Ah non, mais pas de problème. Mastodon, moi je serais absolument pour. Après, géré au niveau de l'équipe communication. Je vais le suggérer. Effectivement, c'est vrai que ça serait bien. Il me semble qu'il en était question pendant un moment. Je reposerai la question. Après tout, ça doit pas être si compliqué de gérer les deux, enfin un autre réseau social du même type et celui-là. Et au niveau des outils libres. J'en ai parlé pendant ma dernière intervention. On a quasiment exclusivement peut-être pas quasiment, mais une grosse partie d'outils libres collaboratifs. Récemment, on avait mis en place un collaborat online pour pouvoir éditer des documents en ligne et du coup sur notre Nextcloud que lui on utilisait depuis longtemps pour le partage de fichiers. On a des pads, on a notre messagerie, elle est sur du libre, notre téléphonie aussi. Alors sur la téléphonie, bah on a pas Mumble, mais on a des conférences téléphoniques. On peut créer des conférences téléphoniques avec Asterix. Ah oui, puis il demandait le nombre de personnes à l'IT. Alors ça dépend où, parce qu'en fait nous on est dans une branche, donc la branche administration système, on est 4 et en tout dans le pôle numérique qui inclut des gestions de la data, comme on dit, enfin des données et du développement à la fois web ou ERP et aussi les responsables produits. J'ai peur de dire une bêtise, mais je dirais qu'on est une vingtaine. Parce que bon, si je réfléchis, je connais évidemment tout le monde, mais là, si je veux répondre rapidement, je dirais que c'est une vingtaine.
Ok, merci. Alors j'en profite parce que là on a évoqué pas mal de logiciels. On pourra mettre des liens, on mettra bien sûr les liens et références, et notamment des références sur des émissions. On a abordé ces logiciels spécifiquement. Voilà, par exemple, tu évoquais Jitsi, on avait reçu à distance donc le créateur du logiciel Jitsi qui nous avait un peu parlé de justement du logiciel. Donc voilà l'occasion de creuser le sujet. Je m'interrogeais sur l'impact que ça a d'un point de vue administration système. J'imagine qu'il y a des besoins nouveaux qui sorte. Quel impact ça a et comment vous mettez-vous en place l'administration système à distance, le support, j'imagine, le support de utilisateurs et utilisatrices.
Ben en fait, et là de ce côté, moi je suis assez satisfait. Enfin, il y a pas de mal à s'auto-congratuler des fois. On n'a pas eu tellement besoin de changer en fait parce que c'était déjà assez solide. Un peu comme Internet a tenu le coup au confinement mondial. Notre SI telle qu'elle était déjà existante, elle était déjà assez solide pour. Et assez complète finalement pour que les gens puissent travailler. Nous, un peu la difficulté parce que on utilise des postes de travail sous GNU Linux, c'est de prendre la main à distance parce que quand on est dans les bureaux, c'est pas un problème, mais quand on est en dehors sur d'autres réseaux, c'est un petit peu plus compliqué. Et heureusement, on a un outil qui a été développé par Easter Eggs, donc notre principal prestataire informatique qui permet de faire ça plutôt bien et du coup on n'a pas de problème pour prendre la main à distance. On peut aussi le faire en VPN en ligne de commande, mais quand il est nécessaire de faire des manipulations en graphique, on peut le faire aussi. C'était un peu ça la difficulté que je craignais moi, mais finalement ça se passe plutôt bien. Et pour tout le reste, bah oui, les outils en place fonctionnent. Il n'y a pas eu tellement besoin d'ajuster les performances, enfin je veux dire les configurations pour que ça s'adapte au nombre. À part le VPN, mais on avait déjà dû le faire à cause des grèves. Non pas que je fustige les grèves, loin de là. Mais les grèves ont fait aussi qu'il a fallu à Paris s'adapter beaucoup en télétravail. Donc c'est vrai qu'il y avait ça aussi. J'ai pas pensé tout à l'heure, mais il y avait ça aussi qui a été un petit peu le baptême du feu. Voilà.
Ok. Et alors du coup, si tu devais dire avec du recul, quels sont les points forts structurels, qui font justement que vous avez l'administration système, voilà, qui soit bien, qui soit résilient. On a déjà évoqué un petit peu, mais pour résumer, donc qu'est-ce que tu recommanderais justement pour avoir une administration système qui tourne bien, qui soit résilient?
Eh ben, je dirais, c'est une question assez complexe, je pense, mais j'ai envie de dire l'humain, parce que mine de rien, on est nombreux par rapport on est 4 du coup, et de mon expérience, c'est beaucoup par rapport au nombre de, parce que bon, on fait du support pour toutes les coopératives de France, donc ça fait quand même pas mal de monde, mais finalement, on est surtout en contact et on fait surtout du support pour la coopérative de Paris, du coup, c'est pour une centaine de personnes, un peu plus, 120, et c'est beaucoup de personnes pour ça, et c'est ça qui permet, je pense, il y a plein de choses à améliorer dans notre service, par contre, on peut pas nous enlever le fait, et on nous le dit souvent, et c'est vrai, qu'on est très réactif, et ça, c'est malgré le fait qu'on ait beaucoup de travail, d'être nombreux, ça permet de pouvoir réagir vite quand t'as des choses importantes à faire, et puis au moins envoyer un petit signal qu'on a bien reçu, et pas un signal automatique, hein, un signal réel et humain, quoi, qu'on a bien reçu la demande et qu'on va la traiter dès que possible. Enfin, voilà, d'avoir vraiment un lien, d'être disponible. Je pense que c'est ça le plus important, finalement.
Super. Et bien sûr, d'utiliser du logiciel libre, mais ça va sans dire.
Ah oui, non, mais ça va sans dire. Non, mais c'est sûr, c'est aussi un avantage. C'est un avantage d'être auto-hébergé et ouais, indépendant là-dessus.
Génial. Le but, c'est aussi, voilà, comme j'annonçais, de prendre des nouvelles. Alors, tu nous parlais de motivation, etc. Est-ce que tu as, ces semaines de confinement, trouver des manières, voilà, pour garder cette motivation, garder le moral? Est-ce que tu as des conseils à donner, ou des suggestions, que ce soit par peut-être d'écoute, de films, de ce que tu veux? Voilà, un petit mot en ce sens plus personnel, du coup.
Oui, alors j'ai pas été aussi créatif que pas mal de personnes sur les réseaux, ce qui est quand même assez incroyable.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça.
C'est plus, enfin, on va s'y mettre. Hein. Je suis confiné avec mon épouse. On a des idées, mais bon, pour le moment, on se force pas, hein, d'ailleurs, mais on l'a pas encore fait. Sinon, niveau culturel, moi, j'avoue que je m'occupe pas mal en lisant. Je suis plutôt bande dessinée et. Je conseillerais d'ailleurs alors moi, j'ai, comme je disais tout à l'heure, j'ai un peu honte, mais j'ai la chance d'être confiné dans les Hautes-Alpes, pas très loin de Briançon, et j'ai relu une bande dessinée que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Aile froide, altitude 3954, qui est magnifique, qui est vraiment un bel objet. Enfin, c'est vraiment le genre de choses qu'on peut relire, enfin, plusieurs fois, rien que pour la beauté des dessins, qui est donc dessiné par Jean-Marc Rochette et scénarisé aussi par Olivier Bocquet. Jean-Marc Rochette, il est plus connu pour Transperce-Neige, qui a quand même été adapté au cinéma par la dernière personne qui a été oscarisée. Alors, j'ai appris son nom, c'est John Bonhu, je sais jamais, j'ai honte. John Un-O-Boon, je sais plus.
je me rappelle pas non plus.
La personne qui a réalisé Parasite.
Pourtant, j'ai
fait. Oui, pardon.
Non, je cherchais aussi, j'ai beaucoup aimé le film et la BD que tu mentionnes, je l'ai lu aussi, et effectivement, génial. J'ai vraiment une super lecture, que je recommande donc chaudement aux personnes qui n'auraient pas lu, et qui sont, surtout si vous aimez la montagne, c'est très fort, ouais.
Ouais, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Déjà, c'est beau, et puis l'histoire est hyper touchante. Je pense que c'est une des rares BD qui m'a vraiment presque arraché une larme.
Autobiographique d'ailleurs, on va en parler, on sent la profondeur, ouais, du coup, ouais.
Oui, il se destinait à être guide de haute montagne et finalement il y a eu un accident dont il parlait, qui est un passage assez incroyable pour de la BD, enfin c'est assez ouf. Et oui, finalement, suite à cet accident, il s'est concentré sur le dessin et c'est très bien aussi.
Bah écoute, moi je pense que c'est un très bon conseil. Je te propose, si tu as un dernier mot à dire, je te propose qu'on s'arrête là, parce que le temps passe, malheureusement.
Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, ça me va très bien. Ça m'a fait plaisir de revenir sur l'émission.
C'est un plaisir que tu reviennes, et puis c'est toujours bien, voilà, de prendre des nouvelles, de voir comment tout le monde passe ce cap, et bon, voilà, on garde le lien. Je pense que c'est un terme important. Merci beaucoup, Julien.
Merci à toi, et puis merci à toute l'équipe, et bon confinement.
Ouais, porte-toi bien.
À bientôt.
À bientôt.